Bonjour à tous, merci d'être venus pour écouter cette présentation du livre de Françoise Monnier. Merci à la librairie Mola de nous permettre de faire cette présentation ici. Quelques mots sur Françoise Monnier, que vous pouvez trouver d'ailleurs sa quatrième couverture du livre. Elle se présente tout d'abord comme orthophoniste. On voit aussi très clairement son goût pour les mots et son goût pour la psychanalyse, ce dont ce livre témoigne, travaille là-dessus. Et Françoise travaille sur Bordeaux et vit à Bordeaux. Alors, on en reparlera. Pour cette présentation, Josette Ricot, également, qui a répondu à la sollicitation de Françoise. Josette Ricot est enseignante, professeure de littérature à l'Université de Bordeaux et Sciences Po. Et son goût pour la psychanalyse se retrouve également dans un ouvrage que vous avez, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est intitulé « Colette et le désir entravé », entre autres ouvrages et entre autres personnages dont Josette Ricot a relu, si vous voulez, le parcours d'une certaine façon averti par des apports de la psychanalyse. Non pas en faisant un trajet de psychanalyse, mais avec travail d'écrivain averti. Josette me dit si elle est bien d'accord.
Je suis d'accord.
C'est ça. Voilà. Je vous dis quelques phrases de présentation par elle-même. Malgré un parcours atypique sur le plan professionnel, dit Josette, je suis fondamentalement une amoureuse des lettres, citoyenne de la République depuis que je sais lire. Donc ça vous donne un ancrage dans l'enfance de son intérêt pour la lecture.
Merci.
N'est-ce pas ? Alors, sensible aux mots. Je fais une rapide présentation du livre et on enchaîne, Françoise, sur ce que vous en pensez, sur ce que vous en dites. En tout cas, cette lecture m'a attrapée, à la fois par, je crois, l'insolite du style, l'insolite de l'écriture, c'est-à-dire fait de ponctuation sur laquelle on accroche plus ou moins, mais dont on retrouve ensuite des échos plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des points de suspension, des choses voilà, laissées comme ça en attente, dont on a l'idée que ça va être repris un petit peu autrement, un peu plus loin. Et alors, sur le livre, on peut le lire au moins deux fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fini, on revient sur le livre en se disant « Mais oui, voilà, cette chose-là était là, mais on ne le savait pas. » Sans quoi ce livre est... en phase, effectivement, avec un parcours, ce que vous dites, avec un parcours analytique, où des choses sont posées en attente d'être ensuite, de réapparaître sur un mode transformé. Enfin, ce livre en apporte tout à fait su mettre ça dans l'écriture, ce qui m'a d'abord frappée et intéressée parce que le livre, lui, il ne traîne pas, quoi. Si le signifiant traîné a tout un devenir dans le livre, on en reparlera. Le livre a un certain élan qui lui donne sa joie. Et alors, vous indiquez que tout cela vous a donné une nouvelle liberté à partir de ce qui ne pourra pas tout se dire et notamment vous dire tenir sa langue. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir là sur des points de votre livre à partir de cette expression énigmatique en elle-même d'ailleurs que vous soulignez, qui est tenir sa langue. Pour de vrai, pas pour de vrai, je dis ça parce qu'en exergue. Vous posez d'emblée la question du vraisemblable et de l'invraisemblable. C'est-à-dire, ce qui serait également, ce qui serait pour de vrai ou pour de faux, si on reprend les jeux de semblants des enfants, ou quand même, là où il y a effectivement une infraction, où ça marque le corps, et comment, et là où ça relève moins d'une marque sur le corps, mais d'un jeu avec les mots, qui est là où on a une marge de manœuvre que vous donnez bien. On a une marge de manœuvre sur les enchaînements de mots, alors que ce qui concerne le corps, la marge de manœuvre est plus étroite. Ce qui amène en analyse, d'ailleurs, souvent. Bon. J'ouvre...
Bon. Alors, la question de tenir sa langue. Alors, déjà, c'est un signifiant de la langue, hein, de la langue de l'enfance. Tiens ta langue. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce que je peux dire, c'est que l'analyse, il y a un moment où l'analyse m'a donné une liberté par rapport à se tenir ce tiens ta langue, qui était... pour moi, comme un surmoi, hein, on me disait tout le temps « tiens ta langue, tiens ta langue », et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, c'est-à-dire que je parlais à tort et à travers pour les autres. Pour moi, pas tellement, c'est-à-dire que je passais mon temps à prêcher le faux pour savoir le vrai, voilà, je me mêlais des conversations qui ne me regardaient pas, l'école portée, ça tournait autour de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne peut pas se dire, et essentiellement la question du sexuel et de la mort, hein, les deux choses, donc, entourées d'un indicible radical.
Pardon, je vous interromps.
Oui,
je rebondis sur prêcher le faux pour savoir le vrai. Oui. Un des chapitres du livre qui est vraiment remarquable, enfin, entre autres, c'est quand vous dites à votre père que c'est un vrai collier de perles et que vous ne lâchez pas là-dessus jusqu'à ce qu'il s'énerve beaucoup, en vous démontrant, enfin, en essayant de vous dire que non, donc il ne joue pas le jeu non plus. Vous avez été avec un père qui. Parfois joue le jeu, parfois non. Et là, on voit bien que, petite fille, vous lâchez absolument pas le truc.
Non. Très petite, je pense que je me suis dressée même. Dressée face à ce que je voulais savoir et avec toutes les ruses possibles. Effectivement, l'histoire du collier de perles, c'est que j'ai dit à mon père qu'avec mes premières économies, je me suis acheté un vrai collier de perles. Et j'insiste, c'est des vraies perles. Et oui, mais c'est des vraies perles. Jusqu'à ce qu'il s'énerve, il se lève, il vienne mordre dans une des perles pour me dire qu'en fait, j'ai effectivement un vrai collier de fausses perles. Donc, voilà, la question du vrai, du faux, du vraisemblable, c'est-à-dire ce carrefour où se joue la question de l'impossible à dire, hein. Soit le réel. Ce n'est ni faux, ni vraisemblable, ni vrai. C'est tout aussi la question de la vérité que Lacan a dit de vérité menteuse. De vérité vraie, le bout du bout, le fin du fin, il n'y a pas. C'est ce qu'en fin d'analyse, on se rend compte que c'est avec ça qu'il faut savoir y faire.
Si vous permettez.
Je vous en prie.
Dans ce thème-là, j'aime beaucoup le début du chapitre 10 que j'aimerais lire. Si elle énerve ce père qu'elle aime, craint et respecte, si elle lui fait perdre patience, si elle ne sait pas se taire lorsqu'il lui dit que maintenant la messe est dite, ce n'est pas tant pour lui tenir tête que pour trouer sa langue qu'elle le trouve trop crue, langue trop près du réel qui lui produit un drôle d'effet qu'elle ne saurait nommer.
C'est exactement ça. Alors, langue trop crue, oui, mais qu'il y avait aussi quelque chose de croustillant. Et c'était ça que je titillais.
Ce qui est d'ailleurs formidable en littérature, hein, lorsqu'on a un personnage effectivement comme ce père-là, avec ce vocabulaire dont tu décris d'ailleurs de façon très savoureuse, des éléments de langage qui sont étonnants, surprenants, amusants, hein, toujours d'ailleurs dans ce même chapitre, je trouve que vraiment, le lecteur se réjouit, la lectrice se réjouit, mais je pense aussi qu'à prononcer ces mots des cagouins, des caguenots, toujours dans ce chapitre 10 que vraiment, qui est vraiment très intéressant, la tourlousine, le bardin, etc. Je pense que pour un écrivain, il y a, évidemment, je pense à Louis-Ferdinand Céline, pour d'autres raisons, mais je pense qu'il y a aussi un jeu avec le vocabulaire, avec les mots, une espèce de jeu que l'on trouve quand même aussi tout au long du livre. Il y a de l'effroi et il y a du jeu. De l'effroi du côté de la petite fille qui ne comprend pas toujours, qui essaie de trouver un sens, percer le mur du sens, c'est ce que tu dis, ce que tu écris. Mais il y a en même temps un jeu effectivement sur la langue qui lui vient, qui lui est imposé et qui va lui permettre, me semble-t-il, de trouver sa langue à elle, son style.
Oui, il y a aussi une jouissance, hein, au-delà du jeu, il y a une jouissance à ce vocabulaire et au vocabulaire du père, parce qu'il est le vocabulaire du père, d'autant plus que la mère, qui était aussi un objet d'insulte, et d'insulte pareil, très, très fleurie, elle ne disait rien. Rien, rien, rien.
Sauf, pardon, un mot, je suis désolée.
Voilà. Hein, elle était les mots du père, on va dire, tombés sur la désolation de la mère.
Et voilà. Toujours dans la suite, enfin, plusieurs niveaux des mots du père. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, comme vous dites, sont croustillants, vivants, reflètent des odeurs ou des bruits ou des choses comme ça, sont donc chargés de vie. Et il y a, vous commencez le livre par... les fractions, comme ça, d'une, ce que vous appelez holophrase, effectivement un bloc de mots dont je suppose que vous entendez le ton, qui doit être un ton effectivement de dispute, et qui pour vous font un bloc totalement dépourvu de sens dont un trajet, enfin la fin du livre, vous rendez compte très bien de comment ces mots chargés de on ne sait pas quoi, en fait, au départ frappe le corps, et ça c'est très bien vu, puisque vous dites, ça déclenche un tremblement qui ne vous quittera jamais, à ce moment-là. Mmh. C'est ça, les mots qui frappent le corps, parce que on ne peut pas les inscrire dans la langue, ils ne sont pas maniables. Donc cette holophrase, je ne sais pas si on peut se permettre de la donner.
Oui, je peux la donner. Enfin,
vous pouvez la donner.
Oui. Oui. C'est-à-dire que, c'est vraisemblablement un souvenir et un souvenir écran concernant la sexualité des parents auxquels tout enfant est confronté. Alors moi, ça se passe comme ça. Je suis réveillée, me semble-t-il, chaque nuit, en tout cas très très souvent, par mes parents, dont je peux dire qu'à ce moment-là, ils ne sont plus mes parents, donc ne me protègent plus à l'âge où j'ai, je sais pas, 18 mois, 2 ans, 3 ans, où un enfant a besoin d'être protégé par ses parents. Là, mes parents passent, je dis, le couple des parents implose sous l'effet homme-femme. Et il s'agit d'insultes d'un homme à une femme, hein. Je parle d'un scénario invariable, holophrasé, qui est bourrier, putain, roulure, fumier, veau marin, qui me réveille et qui, effectivement...
Écrit tout en attaché.
Écrit, oui, dans écrit tout en attaché, parce que c'est ce dont je ne pouvais rien me représenter de ces mots. Mm-hmm. Hein, je ne pouvais pas... Maintenant, voilà, un bourrier, on sait ce que c'est qu'un bourrier. Voilà, c'est-à-dire que dans l'enfance... Aucun de ces mots n'était représentable. C'était simplement cette holophrase dans un ton, dans des hurlements, quoi. Hein, dans des hurlements. Et surtout, moi, je me souviens, je me sentais vraiment éjectée, là. Hein, c'est-à-dire, je n'avais pas ma place. Hein.
Ça fait horreur et fascination à la fois.
Absolument.
Ce que vous dites très
bien. Et fascination. Je n'en perdais pas une. Hein, voilà, à peine ça commençait, je crois que je m'endormais quand les cris cessaient. Mais, et ces cris, c'était toujours les mêmes. J'en attendais toujours un peu plus, hein, du nouveau, essayer de comprendre. C'était pas possible.
Alors, sur le plan littéraire, en même temps, ça donne en quelque sorte de la chair à un roman possible. Bon, moi, j'ai été quand même frappée, effectivement, si je peux me permettre.
Vas-y.
Alors, on a quand même effectivement ce petit livre avec une couverture rose. Il est charmant, ce livre, il est joli comme tout, rose bonbon, que l'on peut tenir dans ses mains, ce titre qui est prometteur, avec une très belle collection d'éditions. Et puis, on y trouve aussi quand même ces personnages qui sont en train d'être évoqués là actuellement, c'est-à-dire le père, la mère, la fratrie et un enfant, une petite fille. Hein. C'est-à-dire on a en place au fond un roman, mais nous dit quand même la quatrième de couverture, un roman familial. C'est-à-dire c'est pas un roman comme les autres, et en même temps il s'inscrit dans une filiation qui est celle du roman d'enfance, que l'on connaît, c'est un genre en littérature. Et dans ce roman d'enfance, effectivement, on trouve... alors évidemment, il y a cette approche par la psychanalyse, en effet, de ce qui est dit, ce qui est écrit dans ce texte-là. Mais moi, en tant que littéraire, je l'ai dit à Françoise, je peux penser à Poil de carotte, je peux penser à d'autres textes qui sont des textes où se disent l'effroi, la fascination, en même temps la capture d'un enfant pris dans la violence, dans une violence parentale à laquelle il ne comprend rien, dont il se sent jeté. Effectivement, Poil de carotte, mais je pense aussi à L'enfant de Jules Vallès. Et il y a effectivement dans ce roman-là des éléments, puisque ça n'est pas un roman de psychanalyse, hein, on a posé cela comme ça, c'est un roman d'analysante. Hein,
voilà, qui, voilà, c'est quand même un roman d'analysante.
Voilà. Mais où l'on retrouve...
Un écrit, voilà. Un écrit. Oui. Enfin, un récit, voilà. Une fiction, quoi qu'il en soit.
Donc un roman. Et on a effectivement ce personnage du père, père terrible, père ogre en quelque sorte, qui effectivement donne un aspect très particulier à cette représentation familiale et en même temps, il est le point de départ du récit, me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a ce père-là et cette mère qui est prise aussi dans ce tourbillon quand même de la violence et qui, elle, est dans le silence et la désolation, qu'il y a ce roman. Et c'est vrai que l'une des questions qui me viennent, moi, à l'esprit, c'est, au fond, qu'est-ce qui a été le point de départ, si l'on reprend l'image de la fabrique du pré de Francis Ponge, qui est citée dans le roman de Françoise Monnier, dans ta fabrique à toi. Qu'est-ce que l'on trouve comme éléments qui, au fond, t'ont permis de construire quelque chose qui est ce roman ?
Ben, moi, je crois que bon, c'est un roman d'analysante. Je crois que sans quoi il n'y aurait pas eu ce roman. Et je pense que la fabrique, l'atelier de ce roman, c'est mis en route par l'analyse, le point d'articulation entre l'inconscient et la langue, en deux mots. Et ce point d'articulation entre l'inconscient et la langue, c'est ce que Lacan a appelé la langue en un seul mot. Et je pense que c'est ça le matériau du livre. Hein. Parce qu'à un moment donné, dans mon analyse, voilà, je suis quand même passée de cette langue du père, il faut dire ordurière,
qui réveille,
à la poésie.
Qui réveille. Qui, oui, réveille,
qui réveille,
parce que le début de votre livre, c'est un réveil.
Oui.
Donc, à la fois, c'est ça qui est intéressant, à la fois, ça fait traumatisme ou effraction, souvenir écran peut-être aussi, mais en tout cas, ça provoque un réveil. Et ensuite, tout le long du livre, on est... Vous dites comment vous êtes maintenu en réveil, pas forcément avec des effractions d'ailleurs, et puis ensuite, avec beaucoup de métaphores musicales d'ailleurs... les variations sur ce que vous dites, la passacaille obstinée du père. Mmh. Et on a les métaphores musicales, enfin on voit votre goût pour la musique et cet apport de là, pour traiter quelque chose qui pourrait être horrible sans ça. C'est la dimension, c'est une dimension poétique dans cette approche, dans cette métaphore.
Et l'histoire du livre, c'est aussi l'histoire du passage de l'entendu, c'est-à-dire du vocal, au lu, au lisible, au scopique. C'est-à-dire que il y avait quand même dans ces choses entendues, il y avait une effraction, il y avait aussi le plaisir, un plaisir vocal, mais aussi une souffrance qui s'est manifestée au niveau des oreilles par des otites, beaucoup d'otites et beaucoup de parasynthèses. Et il s'est trouvé que je ne sais pas comment dire ça, qu'au fil de mon analyse, c'était soutenu par ça, je parlais de ça, jusqu'au moment où j'ai produit un signifiant, qui est le signifiant traîné, dans la contingence de l'analyse et repris par l'analyste, le signifiant traîné, qui, quelque part, faisait partie de la série des putains, roulures, mais j'ai pu dire s'en écarter aussi, parce que traîné est polysémique. Hein, on peut entendre, d'ailleurs, dès que j'ai dit traîner, j'ai pensé à des tas de choses. La traînée d'un avion dans le ciel, la traînée d'un escargot, même à une traîne de mariée, la traînée, bien sûr, la roulure sur le trottoir. Enfin, il y avait beaucoup de traînées. Ça, c'était des traînées, l'équivoque entendu par l'oreille. Sauf que, et je disais que ce signifiant traîner, dans son équivoque, dissolvait, faisait éclater, rendait inconsistante l'holophrase paternelle qui, elle, faisait bloc. Ça dénouait tout ça, et ça l'allégeait beaucoup, au point que ces noms qui avaient été comme ça dans l'enfance, qui s'étaient sédimentés, comme je le dis, à ce moment-là, de manière un peu comique, devenaient simplement des noms d'oiseaux. Alors ça, c'était avec l'équivoque de traîner, tel que je vous dis, tous les traînés que j'entendais. Sauf que la nuit qui a suivi, mon père s'appelle Charles, j'ai rêvé de Charles traîné. Et ça, cette équivoque, elle se lit, elle ne s'entend pas. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai confié le reste de mon analyse, je veux dire, à l'écriture. Voilà, c'est comme ça. Que ça s'est fait. Il y avait quelque chose du. Oui, je dis ça. J'aime bien par rapport à ce que tu dis. La musique, voilà, tout ce qui demeure. Hein, chez moi, ce plaisir-là, bien sûr. Mais ça a été. Voilà, il y a un moment où c'est passé à l'écrit.
Voilà.
Et c'est à partir de là que j'ai écrit.
Voilà.
Et ça m'a fait passer aussi, puisqu'il s'agit de Charles Trenet, quand même d'un langage ordurier à la poésie. Trenet, c'est quand même. Et je me souviens que quand j'étais enfant, mes parents écoutaient deux disques. C'était un disque de Mouloudji, je ne sais même plus ce que c'est maintenant, Les Coquelicots, une histoire de Coquelicots. Et quand le poète a disparu, sa chanson court encore dans les rues, et c'était Charles Trenet. Voilà, donc cette fin d'analyse là, ou cette partie là de l'analyse, est passée à la fois en même temps au comique et au poétique. Au comique par la dissolution de l'holophrase paternelle par le signifiant traîné, et à la poésie après que ce signifiant ait été repris dans le rêve à partir de Charles Traîné.
Voilà. Ce qui est très joyeux. Ce qui donne un accent très joyeux, un ton très joyeux à cette traduction, puisque vous dites traduire sans relâche, traduire encore, effectivement. Et donc là, il y a un point d'arrêt très joyeux.
Mm-hmm.
Oui, ça fait point d'arrêt sur quelque chose.
De comique, de joyeux, de poétique.
Il y a aussi, me semble-t-il, dans le texte, on le voit bien, tout un environnement culturel. C'est-à-dire, quand je lis ce texte, j'y vois des intertextualités, c'est-à-dire des croisements comme cela avec ce qu'ont pu écrire d'autres écrivains. Et donc, moi, je ferai aussi l'hypothèse de la création d'une filiation littéraire et poétique, C'est-à-dire que il y a dans le texte, il y a des haïkus, il y a des citations, il y a des références littéraires. On trouve par exemple le conteur Perrault dès le départ avec Alice, hein, Podane, Louise Lambrich, Jacques Lacan, Proust, des haïkus, Jean Genet, Ponge, Angot, Brel, Trenet, etc., qui créent, me semble-t-il, chaque fois un environnement de complicité, un environnement qui est chaleureux. Et j'irais même jusqu'à, au nom de la rue Lamartine à Arcachon, où se trouve la mercerie de Madeleine, quand même, du côté de Gide. Et puis aussi, il y a l'écritoire d'or, où avec le père, on va acheter des cadeaux. C'est-à-dire qu'il me semble que ce... Et il y a quand même aussi cette phrase, page 48, sa grand-mère a donné à Charles le bagage imaginaire, soit le plaisir du beau, le goût transmis avec amour, qui lui permet aussi de ne pas s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui est établie, me semble-t-il, entre la petite fille et cet univers de la culture, de l'écriture, avec lequel se crée une complicité et dans lequel aussi tu prends place en écrivant.
Voilà, voilà. C'est un, je veux dire, tout simplement un réconfort.
Oui.
Hein, voilà. Il faut quand même, d'une façon ou d'une autre, s'arranger du type de père et du type de mère qu'on a eu, et on s'en arrange justement avec ces débris de langue, avec cette la langue, et avec l'environnement qui a été le nôtre. Et c'est vrai que j'ai reproduit, je me suis fait un petit environnement à moi, avec tous ces écrivains, psychanalystes, que je cite, c'est mon bon, ça me borde, voilà, hein, ma petite bordure à moi.
Ça vous fait tenir la langue.
Voilà, ça me fait, ça fait tenir la langue, et ça borde mon petit livre rose.
Alors pourquoi avoir écrit presque tout le texte au présent de l'indicatif? C'est une rareté quand même qu'il me paraît important de souligner.
Alors, c'est Jacobson, je crois, qui dit que la poésie est un syntagme paradigmatique. Bon, il explique. Ça fait un peu savant de dire ça. Ça veut dire que dans la poésie, on va piquer un mot à droite, à gauche, en haut, en bas. Et il dit, voilà, on pique des mots et à la fin, on met le verbe pour faire semblant. C'est-à-dire que le réel, c'est justement pas le verbe. C'est-à-dire que dès l'instant où on conjugue un verbe et où interviennent une ou deux, ou les personnes pour conjuguer ce verbe et les temps, on est dans le semblant. Le réel, c'est le sans-verbe ou le verbe à l'infinitif, qui n'est pas un verbe. Enfin, c'est un nom. Le manger, le courir, le...
Ça peut être un substantif.
Substantif.
Tant que ça n'est pas conjugué, tant qu'il n'y a pas un sujet, effectivement, ça n'a pas de sens.
Alors, c'est vrai qu'on serait tenté, pour rendre compte du réel au-delà du semblant, d'écrire un texte avec une contrainte, aucun verbe. On peut s'y amuser, je ne crois pas que ce soit très possible. Après, il y a les verbes à l'infinitif. Ça, je pense que ça a été fait. Et je pense que je l'ai utilisé aussi. Et alors, le présent, je veux dire, c'est juste le cran au-dessus. C'est-à-dire, c'est moins qu'en promettant, il me semble, pour les autres temps, par rapport au réel. Voilà. D'abord, parce que par rapport à l'inconscient, l'inconscient ne connaît pas le temps.
Hein, oui.
Donc ça, et puis voilà, il me semble que ça sert mieux.
C'est aussi un exercice de style. Je pense à Pérec qui peut écrire effectivement sans eux.
Oui, oui, une contrainte. Oui. Mais je crois que ça n'a pas été décidé de ma part. Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est a posteriori, à la relecture, que je peux dire ça. Parce que le style, si on revient à la question du style... Moi, je crois quand même que quiconque écrit va chercher à serrer ce qu'on appelle le réel. Donc moi, ce que je voulais, c'était Par exemple, Christine Angot, elle dit que son but, c'est de montrer, c'est-à-dire sans jugement de valeur, c'est montrer une expérience, montrer, point final, avec les mots. Bon. Si on part de ce que dit Lacan, et qui est vrai, le mot est le meurtre de la chose, il est facile de constater que c'est un meurtre quand même extrêmement imparfait. Et puis, heureusement, parce que si la chose était complètement mortifiée, il n'y aurait pas de jouissance, il n'y aurait pas de plaisir. Donc, il y a un reste. Alors, pour moi, les mots comme ça ne suffiront pas à traiter ce reste. Je trouve que le reste, il est à traiter dans le style.
Et ça donne ça.
Et ça donne ça, voilà. Mais c'est pas... c'est pas un calcul, trop. Hein.
En même temps, par rapport à ces questions du présent, ce livre est la construction d'une fiction d'enfance à partir de choses, de marques, soit au corps, soit de marques d'existence, effectivement. Mais ce n'est pas un livre, chronologique. C'est plutôt diachronique. C'est-à-dire qu'il y a un fil dès le départ, un point dès le départ, qu'on retrouve, traduit différemment, dans différentes scènes. Donc on n'est pas dans un... on n'est pas du tout dans une chronologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a également des interstices, des trous comme ça, entre un chapitre, un autre, et qui passent à autre chose, en tout cas à des scènes où on retrouve le fil de ce qui a marqué. D'où un présent, effectivement, approprié à cette diachronie.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas du tout, effectivement, de linéarité chronologique. Non. Le roman d'abord est à la troisième personne, ça c'est aussi important, une mise à distance. Mmh. En même temps, c'est quand même la même chose qui revient, sous des formes un peu différentes, dans chaque chapitre. Mmh. Très court, dont on voit quand même que ce qui les articule entre eux, c'est quand même cette langue, la langue, effectivement. Et le présent, en effet, c'est un présent de fixité, en quelque sorte. Aussi, intemporel, qui en effet a sa place, a sa pertinence.
Mais c'est aussi parce que, je dis quand on cherche comme ça à cerner un réel, le réel, c'est quand même ce qui revient toujours à la même place.
Oui.
C'est absolument indéplaçable. Alors... mais par contre, on peut le prendre par divers biais, par des petites histoires différentes, entourées d'un style particulier, de mots particuliers. Mais il y a quand même, dans chaque anecdote, la même chose qui revient à la même place, donc, qui est hors du temps. À part de ne pas mettre de verbe ou les mettre à l'infinitif, le présent me semblait le minimum. Ou s'avancer.
Oui. La dernière partie est différente quand tu contactes l'analyste. Où là, il y a quelque chose de différent qui se passe.
Là, il y a un rythme différent qui est le rythme propre de l'analyse. Qui va tendre à me détacher de la fascination quand même de cette holophrase et de tout ce qui l'entoure. Enfin, de l'holophrase du père et du silence de la mère et de la désolation de la mère. Il a fallu quand même, dans l'analyse, parfois j'aime dire ça, on opère le père, après on opère la mère, et on opère un peu plus le père, un peu plus la mère, jusqu'au moment où on peut les laisser de côté pour prendre langue en son nom et éventuellement écrire.
En même temps, vous êtes entouré de bruits tout à fait rassurants. Il n'y a pas seulement... Là, on met en exergue ce qui réveille et ce qui a fait effroi et fascination. Mais dans le livre, on entend presque les petits éclats de bois qui craquent dans le chauffage et qui vont repartir. Vous attendez que ça reparte. On sent l'odeur des fleurs des dunes quand vous allez au petit matin avec votre père à la chasse. L'odeur du bouquet de plumes, enfin des petites choses comme ça où on sent une sensibilité à un environnement fait de bruit et d'odeur. Oui, rassurante. Et je souligne ce point-là, notamment pour les petits morceaux de bois qui repartent, parce que à la fin du livre, effectivement, il y a un rêve qui a le titre « Traduire sans relâche », puisqu'à la fin, ça se resserre dans votre livre, on a des titres, et où on voit une traduction ou un usage possible et différent de ces petits morceaux de bois.
Je n'avais pas pensé.
Dans le rêve, vous les avalez, enfin bon, je vais pas dire le rêve, je vous laisse le découvrir, mais on voit une transformation pour échapper à la langue de bois, dites-vous. Donc ce sont c'est chargé de légèreté en même temps, c'est-à-dire à la fois il y a des choses fixes et en même temps vous avez une légèreté de traitement de ce qui a fait aussi des bonheurs d'enfance.
Oui, je crois que ça a été très très tôt pour une insondable décision de l'être, mon parti pris quand même, de pas me laisser me laisser juste fasciner.
Oui.
Juste fascinée, tremblante, inquiète, mais c'est vrai qu'il y avait l'environnement quand même.
L'environnement très
réconfortant.
Tu dis la décision du sujet, c'est-à-dire que l'on voit, on sent, on peut très bien se représenter, petite fille aussi, qui s'amuse malgré tout. Ce jeu de mots sur Vuitton, par exemple, je trouve très drôle. Repérer comme ça un certain nombre d'éléments qui pourraient être inquiétants, mais capacité aussi d'être ouverte sur la vie, les petites choses, des odeurs, effectivement, des impressions, le fait de porter une valise un peu lourde, enfin, on sent qu'il y a un poids de vie qui est là.
La valise lourde, pesante à tout point de vue, parce que des cartouches, c'est lourd,
Une fierté quand même.
Et puis contente de ne pas porter le fusil. Moi, j'aurais des fusils, contente que ce ne soit pas le fusil que mon père m'ait collé dans les mains, mais plutôt
Et la scène du coq aussi.
Ça aurait été aussi bien qu'il ne m'amène pas à la chasse.
Tout à fait. Et le coq.
Oui, non, il vous applique le qualificatif d'intellectuel.
Oui.
Votre père. Il particularise chacune des filles.
Oui.
Ça, vous le dites très bien. Alors que vous dites que pour votre mère, c'est les quatre. Les quatre en quatre ans, c'est les quatre. Donc, difficile. Il y a d'ailleurs le chapitre sur quand vous essayez les vêtements, là, qui est absolument remarquable. Et, c'est la première phrase, d'ailleurs, et si je la retrouve, elle est vraiment très bien. Attendez, je vais quand même vous la dire. Vous dites « Gilberte n'a pas plus d'initiative pour habiller ses filles que pour la plupart des choses ». Et c'est une phrase d'une simplicité et d'une beauté. Et en même temps, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Voilà ma lecture, quand j'ai vu cette phrase.
Mais de tout, moi, je trouve.
Et alors, de tout.
Bon, j'ai choisi d'en rire.
Et donc, elle dit les quatre en quatre ans, les quatre filles, on sent une indifférenciation. J'ai votre mère qui est occupée par un petit peu, sur un mode très atemporel, attrapée par elle-même ou par d'autres choses. Donc, elle vous échappe. Elle
est inaccessible. Moi, ce que je vais dire, ma mère, ça m'est venu il y a deux ou trois jours, pour la décrire un peu, c'est une ambiance à la Hopper. On est dans le monde de Hopper.
Oui. Alors que par contre, votre père, il a des termes extrêmement précis, en tout cas des qualificatifs précis, intellectuels. Pour vous, qui était porteur.
Et alors, par rapport au père et à la mère, c'est Christiane Siré qui me faisait remarquer que le père est du côté des mots et la mère chiffre. Mes chiffres, au sens chiffrer du linge, chiffrer, c'est 4 en 4 ans, c'est à 24 ans, j'avais 4 filles. Voilà.
Oui.
Elle est du côté du chiffre, oui. Enfin du chiffrage.
Oui.
Le père du côté des mots, avec la plasticité que ça suppose.
Et quand vous lui dites que vous avez le bac, et il vous dit, si j'ai bien lu, il vous dit de baisser le ton. Mmh. Ce qui est quand même assez curieux. Ce qui vous... je ne sais pas comment vous rapportez ça, je ne sais pas comment vous avez reçu ce choc.
Ça, je le rapporte vraiment comme un pur souvenir.
Ce choc
je n'ai, bien sûr, je n'ai pas compris... là j'ai pensé qu'il était vraiment bizarre, je me suis sentie là vraiment du côté de ma mère, je pense que là je me suis sentie ravalée quand même, parce que jusque là entre mon père, ma mère, parce que là je me suis mis quand même, je me suis dit ben voilà, je suis de son côté à elle quoi, pour lui.
Ça vous a pas empêché ensuite de continuer?
Des études?
Oui.
Bon an, mal an, hein. Enfin, il a fallu... Ça ne s'est pas fait très facilement, et voilà.
La seule bachelière de la fratrie, mais n'en fit rien pendant des années.
Oui, c'est ça. Hein. J'ai eu mon bac, mais après, j'ai un peu traîné en fac de droit. Enfin, ce n'est que très longtemps après que j'ai fait des études d'orthophonie. Non, c'était un peu censuré, tout ça.
Comment ça?
Ben, il ne fallait pas se montrer trop savante. Moi, j'ai été mariée peu de temps avant la mort de mon père. Et là, j'étais en faculté de droit. Il m'a dit très clairement, mais ce qu'il l'ait dit, c'est pas normal, mais que j'y ai mis sous cette bannière-là. Il m'a dit, mais une femme qui continue à aller à la faculté alors qu'elle est mariée, c'est sans doute qu'elle s'ennuie chez elle. Il n'était pas question que mon père puisse supposer au combien je pouvais m'ennuyer chez moi si je n'allais pas faire un quelque chose, comme tout le monde. Enfin, là, ce que je peux dire, c'est que c'était un retour de cette affaire par l'écriture, mais qui n'aurait absolument pas pu être sans une longue psychanalyse. Parce que quand même, tout ce que je décris de mon père, qui est vrai, hein, il y a les insultes, il y a les micros dans toute la maison, il y a le pistolet sur la tempe, il y a... voilà, parce qu'il a une partie solaire, mais une partie extrêmement sombre. Et l'analyste a entendu ça pendant des décennies. Il a quand même saisi le moment où il a pu dire « Votre père n'était qu'un snob ». Alors là, ça passe vraiment au comique. Hein? Il m'aurait dit « nouveau riche », ce qui était le cas, je pense que je ne serais jamais revenue, parce que j'avais honte de ça. Il m'aurait dit « parvenu », c'était pareil. Il m'aurait dit, je ne sais pas, « mégalomane », tout ça. Mais « votre père n'était qu'un snob ». Alors ça, c'est du cristal quand même.
Vous êtes, dites-vous, dépité.
Ah, je suis dépité. Comme je dis, heureusement qu'il y a un divan pour ne pas tomber de ma chaise, parce que... Parce que vraiment... Et puis alors après ce snob, je peux en faire quelque chose de presque rigolo. Oui, alors, voilà. C'est-à-dire que...
Alors est-ce que c'est un nom d'oiseau pour vous?
Pardon?
Est-ce que vous mettriez snob parmi les noms d'oiseaux?
Ah, ça ne m'est pas venu à l'idée.
Non.
Ça ne m'est pas
un nouveau nom d'oiseau.
Le nom de l'oiseau n'est rien de son champ. Il n'est qu'un snob.
pas de quoi en faire tout ce flaf-là.
Oui.
Je dis ça parce
non.
que... Pardon.
Oui, parce que ça a allégé quelque chose. C'est devenu un nom d'oiseau. C'est-à-dire que tous les noms de mon père, le ci, le là, là, et c'est devenu un snob. C'est-à-dire que ça s'est extrêmement allégé. C'est devenu un nom d'oiseau. Mmh. Oui.
Ou un chant d'oiseau, alors. Parce que votre titre, c'est entre le nom et le chant.
Alors, le titre de ce livre, je peux en dire quelque chose. C'est que ce livre, je l'ai d'abord proposé. D'abord, je ne sais, sais pas si j'aurais pensé le publier si Jacques-Alain Miller ne m'y avait pas poussé. Hein, c'est lui qui a lu le premier mon manuscrit et qui m'a dit chercher un éditeur. Mais quel éditeur ? Il m'a parlé de deux éditeurs, donc je suis allée porter mon livre à un des deux qu'il a lu et qui a dit alors ça, c'est un ovni, moi je ne peux rien en faire dans la collection que je dirige. Donc je suis repartie avec mon ovni sous le bras et je l'ai apporté à un autre éditeur. Ah oui, à l'époque, il ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait La vie concrète. Alors, l'ovni a plu à ce second éditeur, mais par contre, pas le titre. La vie concrète, non. Mmh. Et c'est pour ça que je suis passée de l'ovni, objet volant non identifié, parce qu'il s'agit quand même de l'identification d'une femme dans ce livre. Ben, c'est comme ça que je suis passée à l'histoire du nom de l'oiseau. L'objet volant, non identifié, dont le nom ne dit rien de son champ. Mais c'est vrai que aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis passée de ce qu'on appelle le désir de l'analyste en tant que le désir de mon psychanalyste au désir d'un éditeur. Parce que je ne le voyais pas si gai que ça, quand même, ce livre. Hein, c'est vrai que l'éditeur en a fait une petite féerie, quand même, dans ce rose. Moi, je le voyais bleu marine, je le voyais... il s'en est emparé comme quelque chose de plutôt joyeux. Et ça, ça a été... ça aussi, ça a été un pas pour moi.
Écoutez, Charles Trenet, c'est joyeux quand même.
Oui. C'est... Oui, mais il a fallu le coup de pouce du désir de l'analyse, du désir de l'éditeur pour concrétiser ça.
C'est aussi la réponse de Madeleine. Hein. Chagrin d'amour ne dure qu'un moment, plaisir d'amour dure toute la vie.
Voilà, voilà. La langue de ma grand-mère. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Françoise, effectivement, de nous avoir fait partager ça.